Apple Différemment est un podcast de vulgarisation du monde Apple. L'idée, c'est de vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Bonjour, bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur l'univers Apple, mais pas que. J'ai le plaisir de vous recevoir avec ma co-animatrice, formatrice, autrice, youtubeuse Apple, Audrey. Bonjour Audrey, comment vas-tu?
Salut Matt, ça va? Très bien, et toi?
Ben moi, ça va très très bien. Moi, créateur de podcast, fanboy Apple, j'ai été ravi cette semaine parce qu'on a eu le show, on a eu une keynote, on est content. On a plein de nouveaux produits, en fait deux. Nouveaux produits à parler pendant l'émission, mais juste avant, on a des petits retours d'auditeurs que tu as mis dans les notes de l'émission. Je vais te laisser lire le premier qui vient de Casbleu.
Ouais, Casbleu qui nous dit « Dans le tram, dans le bus, à la salle de sport, en allant faire mes courses, j'écoute ce podcast quasiment partout. Sérieux sans se prendre au sérieux, pédagogie, bonne humeur et sujets variés, bref, c'est le pied. En plus, on découvre de nouvelles expressions dans le monde de la francophonie. Audrey, qui a su me convaincre il y a quelques années de passer chez Apple, est la seule personne au monde qui a réussi à me convaincre d'acheter une Apple Watch. Je l'aurai un jour, je l'aurai. En gros, ne changez rien. Kiss, love and flex. Waouh ! Merci. Ouais,
merci beaucoup. On fait dépenser les gens. Hein. Je pense que l'émission à date dans les statistiques qui marche le plus, c'est celle où on parle de l'Apple Watch. Je pense qu'il y a des gens qui ont acheté des Apple Watch à cause de cette émission-là. Deuxième commentaire qui vient de Route 311, Route, R-O-O-T, comme les racines. Toujours aussi bon podcast, je vous ai connu via des vidéos d'Audrey, et c'est vrai que d'apprendre toutes ces petites anecdotes, c'est vraiment sympa et satisfaisant. PS, il y a 12 tailles de bracelets pour les solo loops. C'est beaucoup, 12 tailles.
Ouais.
C'est incroyable.
Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée, en fait, ce truc, hein.
Il y a beaucoup de gens qui l'achètent.
Surtout avec le Covid.
Ouais, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui l'achètent et qui prennent une espèce de gabarit. Vous pouvez faire papier, le découper, puis vous le mettre autour du bras pour voir la taille qu'il faut que vous achetiez. Et il y en a beaucoup qui se gourrent là-dedans, dans ce gabarit-là. C'est vraiment un truc qu'il faut l'essayer pour vrai. Puis en temps de Covid, avec les Apple Store fermés, c'est pas franchement évident. On a aussi, pour terminer, un troisième commentaire. Vous le savez, vous pouvez maintenant, dorénavant, laisser des messages sur Apple Podcast Audio, sur notre répondeur. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Et on va écouter celui de Fabrice.
Bonjour Audrey, bonjour Matt, Fabrice de France. Deux petits points par rapport au dernier épisode. Audrey, d'abord, tu disais que raccourci, shortcut, c'était assez compliqué. C'est pas faux, ça peut être très très compliqué si on veut faire des choses très compliquées et très avancées. Par contre, si on veut faire des choses assez simples, en fait, on peut regarder aussi, il y a pas mal de ressources sur Internet, il y a pas mal de gens qui ont déjà fait des choses qu'on peut télécharger pour voir un peu comment ça fonctionne et s'en inspirer. Deuxième point, c'est TrueFone. TrueFone, en fait, alors personnellement, je connaissais parce qu'en fait, je l'ai utilisé par deux fois quand j'étais en vacances. Et ça permet d'avoir aussi, même sur mon 10S, d'avoir un petit forfait éphémère à l'étranger, sur de la 4G. Pour une petite histoire, je l'avais utilisé à Hong Kong. Et voilà, c'est très, très pratique. Hein. Voilà, donc bonne journée à tous les deux et à tous les auditeurs. Au revoir.
Alors, il y a plein d'éléments là-dedans. Alors, le premier, c'est shortcut. Ça peut être simple si on copie les raccourcis des autres. Toi, qu'est-ce que tu en penses de copier les raccourcis des autres?
Bah écoute, on en avait parlé sur Twitter, j'avais justement mis des liens vers des sites qui référencent plein de raccourcis qu'on peut télécharger, donc on peut utiliser, moi j'en utilise déjà quelques-uns, notamment pour les captures d'écran, des choses comme ça. Donc non, c'est super cool que ça soit communautaire en fait, qu'on ait vraiment du partage comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que à chaque fois que je veux créer un raccourci, les fonctions proposées, dans les fonctions proposées, il n'y a pas ce que je veux. Donc, c'est un peu frustrant, en fait. On se dit, ouais, je vais empiler tel truc et tel truc, ça va me faire ça. Et en fait, il manque toujours un morceau quelque part, ou alors il faut coder. Et là, c'est mes limites, c'est que je ne sais pas coder. Donc, voilà. Je pense qu'Apple devrait mettre plus d'action, en fait, par rapport aux différentes applications. Et là, on pourrait peut-être faire des choses plus facilement.
Ouais, je vais abonder dans ton sens. si on veut une vraie plateforme qui soit accessible, il va falloir avoir des shortcuts beaucoup plus simples à créer, parce que souvent, quand on veut faire un petit peu plus personnalisé, il faut absolument faire du code. Petit bémol sur l'utilisation des shortcuts qui sont partagés, partageables. Vous donnez quand même accès à beaucoup d'informations sur votre iPhone de par ces shortcuts-là. Si vous n'avez pas l'œil d'un développeur, si vous n'avez pas l'œil de quelqu'un qui est un petit peu plus soupçonneux comme moi, vous pourriez peut-être laisser accès à certains raccourcis qui vont voler ou prendre ou faire des choses que vous voudriez pas sur votre téléphone. Alors faites quand même attention à pas prendre n'importe quel shortcut qui vienne partout. Je vous dirais des trucs, sans vous faire peur, mais je voudrais des petits trucs qui sont intéressants, c'est voir les commentaires par rapport à un shortcut. Il y a souvent des gens qui valident ça avant vous. Des shortcuts populaires, c'est aussi un pas mauvais signe que c'est un shortcut qui est bien fait. Alors faites attention de pas expérimenter des shortcuts trop partout. Utilisez les sites qui vont bien, les sites reconnus avec des bonnes communautés. C'est peut-être juste la recommandation que je ferais par rapport à shortcut.
Oui, on pourra mettre les sites dont j'avais parlé, on pourra les mettre dans les notes de l'émission. C'est vraiment les plus gros sites, je crois qu'il y en avait 3. C'est vraiment les plus gros sites qui partagent des raccourcis. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas de... Enfin, comme dit Matt, il faut vérifier le nombre de téléchargements. Et puis, si vous trouvez qu'il y a un shortcut qui est bizarre, bon, passez votre chemin, quoi.
Effectivement. Bon, Audrey, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Keynote du 13 octobre. Alors, on l'a dit l'autre fois, les keynotes, c'est des présentations produits, c'est comme ça qu'on les appelle chez Apple. Apple, d'entrée de jeu, comment tu l'as trouvé, toi, la keynote passée? Le 13.
Bah, écoute, je l'ai trouvé très cinématographique. J'ai envie de dire, j'avais vraiment l'impression de regarder un film, plus qu'une présentation de produits. Il y avait de la musique, des effets spéciaux et tout, enfin, des vues sur plusieurs plans. Enfin, c'était vraiment super bien réalisé. Comme je disais, ben pour moi ça manque un peu de, comme la dernière fois, ça manque un peu de spontanéité, voilà. Sinon non, très bien en fait, droite au but, courte, enfin bien. Par contre, ils font beaucoup de keynote du coup, parce que là on en est à la deuxième, ouais. Et on en aura peut-être une en novembre pour les Mac. Donc nos sujets sont vraiment trouvés depuis plusieurs mois là. C'est la le deuxième mois déjà qu'on parle que de keynote. Donc non, franchement, je l'ai trouvé bien. Et toi?
Alors, je suis mitigé. Alors, niveau cinématographique, je l'ai trouvé bien. Niveau présentation du iPhone, je dois te dire qu'on est toujours dans une évolution. Et puis, quand on est dans une évolution, c'est dur de se laisser, comment je dirais ça, surprendre, de se laisser... aimer une présentation, parce qu'on est dans les 20% plus fort, 30% si, 4 fois plus supérieur à. Alors, on est tout le temps dans, on fait plus gros, on fait plus mieux, on fait plus, on est plus, on est plus. Fait que ça, cet aspect-là, au niveau de l'iPhone, ça m'a laissé sur ma faim. Par contre, ben, j'étais content de voir le HomePod mini, nouveau produit, nouvelle façon de le présenter. J'ai trouvé ça très, 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 très chouette. Mais il y a quand même eu une espèce de petite panique générale après la keynote, Audrey. Qu'est-ce qui se passe comme panique générale après cette keynote?
Ah là 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 là, c'est la fin du monde, mes amis. Je sais pas si c'est une bonne blague à faire en ce moment, mais trop tard, je l'ai faite. Donc en fait, Apple a décidé de ne plus vendre de chargeurs dans la boîte de ses iPhones. Donc quand vous achèterez un iPhone, vous aurez partout dans le monde un câble Lightning vers USB-C, votre iPhone bien sûr, et c'est tout, sauf en France, où vous aurez les fameux AirPods, donc c'est les écouteurs filaires qui font mal aux oreilles. Ça, on les aura uniquement en France, puisque c'est au niveau législatif, les fabricants de téléphones doivent fournir un kit main libre. Donc ça fait beaucoup de débats, cette histoire de chargeur. Apple a justifié ce choix en disant que ça représentait quand même l'équivalent en carbone de 450 000 voitures par an. Le transport de ces chargeurs, je ne sais pas si comptait la fabrication de ces chargeurs, je pense que si. En tout cas, ils estiment que tout le monde a un ou plusieurs chargeurs chez soi et que si on n'en a pas, on en achète un à part.
C'est pas faux.
Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bon, pour ce qui est de la France, ce que je ne sais pas, est-ce qu'il va être vendu au même prix que les autres pays?
Oui, apparemment, oui.
Ah, OK. Au moins, ils n'ont pas fait une différence. Ben, ce que j'en pense, c'est que c'est évident pour des gens qui ont des appareils que c'est trop. Moi, ça fait plusieurs versions d'iPhone que j'achète. J'ouvre même pas les écouteurs, j'ouvre même pas le chargeur. Je prends le iPhone, puis j'ai tout mon écosystème à la maison de fil, de station d'accueil. Tout est en place déjà. Alors, c'est vrai que j'en ai pas besoin. Au niveau des écouteurs, c'est pareil. J'ai déjà acheté tout ce que j'ai de besoin. Je me dis que c'est un petit peu dommage pour une personne qui entre dans un écosystème qui n'a pas ces chargeurs-là. Mais une fois qu'on a dit ça, ça reste, et je pense, je suis assez persuadé que ça demeure une exception dans la règle. Moi, ce que j'aurais aimé plutôt, c'est une approche du genre, on le met pas de base, mais ceux qui le veulent, ben vous venez au Apple Store, on vous le donne sur présentation d'une facture ou on vous l'envoie sur présentation d'une facture pour dire, ben au moins, le, vous avez pas un surplus à payer. En fait, c'est comme ça que je l'aurais vu.
Ouais. Après, le problème, c'est que tu vois, là, ils pensent qu'ils vont vendre 80 millions d'iPhone d'ici la fin de l'année.
Oui.
On est le 16 octobre. Donc, t'imagines le volume d'iPhone qu'ils vont vendre. Donc, s'ils proposaient, ce qui aurait dû être fait, c'est quand on commande sur le site d'Apple, ils nous disent, j'ai fait une simulation, ils nous disent, attention, les nouveaux iPhones ne sont plus vendus avec un chargeur. Si vous en avez besoin, achetez-en un à part. Mmh. Ils auraient pu, comme pour les options sur Mac, mettre une petite coche, oui, je veux un iPhone ou pas, un chargeur ou pas. Ça aurait été pratique, parce que là, c'est vrai que si la personne se dit pas, alors attends, je vais chercher le chargeur, faut que je trouve le bon chargeur, que je l'ajoute au panier, etc., pour être sûr de l'avoir. Là, si tu veux, au niveau vente et, on va dire, présentation sur le site, je trouve qu'ils ont pas fait les choses correctement. Ils auraient dû dire, ben, si vous avez besoin d'un chargeur, vous cochez cette case et vous l'aurez en plus qui sera livré avec votre iPhone.
Ouais.
Bien sûr, dans une boîte à part. Ils vont pas faire des boîtes avec et des boîtes sans, ça serait trop compliqué. Après, si tu veux, t'imagines 80 millions d'iPhone en 2 mois et demi. Ça veut dire 80 millions de chargeurs qui ne vont pas être produits. C'est colossal quand même en termes de volume, en termes de matières premières, en termes de tout ce qu'on veut. Et je suis persuadée qu'ils vont jamais vendre 80 millions de chargeurs à part. Donc pour moi, le bilan écologique est plutôt bon, puisqu'au final, même s'ils vendent 20 millions de chargeurs, ça fera toujours 60 millions de chargeurs qui n'auront pas été produits, qui n'auront pas été transportés pour les gens qui en ont déjà.
Ouais, tout à fait. Ça, pour cet aspect-là, je te l'accorde. C'est peut-être, puis on se rejoint là-dessus, c'est peut-être d'expliquer ou de mieux dire ou au moins de l'offrir pour ceux qui n'en ont pas, parce que ça va encore une fois, puis on l'a déjà dit dans une de nos émissions, faites attention les types de chargeurs que vous achetez, les types de fils et ces choses-là, ça va peut-être encore faire mal paraître la marque en achetant des produits ou des sous-marques que le son serait pas bon pour les écouteurs ou que le chargeur ne serait pas bon pour le recharger. Là, moi, je vois juste cet aspect-là qui pourrait être peut-être une zone grise pour l'expérience Apple qui est pas bien contrôlé parce que les gens vont s'acheter des affaires moins chères ou plutôt cheap. On le voit de toute façon, on a tous ce réflexe-là. On achète un iPhone à 1 000 €, puis on regarde la coque la moins chère. C'est humain, puis l'expérience... Mais bref.
Il y a d'autres gens aussi qui... Oui, il n'y en aura pas. De toute façon, je pense qu'Apple ne reviendra pas là-dessus. Et ils mettent en avant l'aspect écologique. Alors, certains disent que c'est juste pour se faire plus d'argent. Donc, bah, bref, chacun a son avis. Après, moi, je pense que globalement, tu vois, j'ai acheté mon casque Marshall, j'ai acheté une enceinte JBL ces dernières années, ou un Fitbit, tout ça, c'est vendu sans chargeur. Tu vois, t'as juste le petit câble avec ta prise USB, et voilà, et tu te débrouilles pour le charger sur ton ordi, sur un chargeur existant. Il y a plein de fabricants qui font déjà ça. Donc pourquoi, moi, je veux juste savoir pourquoi, quand c'est Apple, là, c'est pas bien. Tu vois, il y a un moment, je pense qu'il faut relativiser un peu et se dire... vu les volumes, je pense qu'on peut même pas s'imaginer les volumes de vente qui font et à quel point ça représente une pollution. Je pense que c'est les premiers justement à devoir montrer l'exemple et à dire on estime que c'est trop polluant, que les gens n'en ont pas besoin, comme tu dis, ceux qui ont des iPhones depuis plusieurs années ont déjà des chargeurs. Moi, je recharge mon iPhone la plupart du temps sur mon ordi. C'est vraiment dommage qu'il y ait une polémique, d'autant plus que les gens regardent. En fait, ils gardent que leur point de vue d'individu au lieu de penser globalement, quoi. Donc ça, c'est un peu le problème de la crise écologique, c'est que on est face à un problème d'individu et pas un problème global, quoi. Bon, on pourrait en parler très longtemps, mais on va passer à la suite.
Oui, parce que sinon... absolument. Et la suite, c'est la présentation de l'HomePod Mini qui a été la surprise. Alors, je dois te dire que j'ai vécu une frustration là, incommensurable quelques heures avant la keynote. Un leak. Deux leaks, en fait, les photos des iPhones. Ça encore, ça pouvait aller parce qu'on les savait un petit peu à l'avance, les photos des iPhones, à quoi ça allait ressembler. mais il y a eu le leak du HomePod mini. Et là, je suis resté pantois parce que un HomePod mini, je pensais qu'il allait prendre le HomePod normal et le faire juste plus petit. Mais non, ils ont complètement revu le design. C'est une belle bouboule. On a une boule blanche et noire. Alors évidemment, c'est encore du tissu, une espèce de mèche avec une texture de tissu qui recouvre ça. Et on a encore évidemment un espèce d'écran en haut flou où on voit l'icône de Siri. Le design de Siri apparaît, mais le design est complètement révolutionnaire. D'entrée de jeu, est-ce que tu la trouves belle, toi, la nouvelle HomePod mini?
Alors, je voudrais préciser deux choses sur ce que tu as dit. Alors, un leak, c'est dévoile une fuite, voilà. Donc, des photos qui passent avant la présentation officielle, pour les fans, c'est dur parce que ça crée de la frustration, enfin voilà. Le HomePod mini ou le HomePod, ce sont des enceintes connectées. Je pense que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, donc ce sont des enceintes connectées. Et là, en effet, on a une toute petite enceinte connectée vendue vraiment à un tarif abordable, 99€. Alors clairement, moi, je la trouve super mignonne. J'en aurais bien vu une de chaque côté de ma télé, par exemple. Le problème reste pour moi toujours le même, c'est que il n'y a pas de sortie ou d'entrée audio. Ça marche que en Bluetooth. Enfin, tu vas me corriger si je me trompe, mais du coup, pour moi, c'est problématique, parce que je veux pas forcément... Enfin, pour moi, une enceinte qui reste toujours au même endroit toute l'année, je préfère qu'elle soit connectée avec un câble, une prise jack, et puis voilà, on n'en parle plus, quoi.
Ouais, bon, en fait, c'est ça. T'as bien fait de me reprendre, c'est quoi un leak. C'est vrai que c'est une expression très, très anglophone. Alors, le HomePod mini, c'est une petite enceinte connectée qui se veut connectée juste à l'électricité physiquement, mais qu'elle est connectée à votre téléphone et à votre écosystème Apple. Alors, vous la configurez avec votre téléphone et après ça, elle va s'alimenter toute seule via votre réseau sans fil Internet. Et vous allez pouvoir faire quoi avec ça? Vous allez pouvoir commander certains appareils que vous avez domotiques à la maison. Vous allez pouvoir la questionner sur certains aspects de votre vie. Vous allez pouvoir même maintenant pouvoir téléphoner, en tout cas recevoir des intercoms d'un HomePod mini à un autre. Alors, si vous en achetez deux, vous mettez dans deux pièces différentes. Vous avez une application intercom pour pouvoir parler à l'autre pièce et ou parler au iPhone d'une personne qui est ailleurs. Vous allez pouvoir faire ça. Alors, évidemment, ça joue la musique. Je le dis à la fin, mais évidemment, c'est fait pour jouer la musique initialement. La qualité de son du HomePod, je le répète et je le répéterai jamais assez, est excessivement bonne. Parce que le HomePod normal, qui est gros, qui coûte près 400$ canadiens, 300€, je pense, aux alentours d'eux, a une vérification spatiale de sa pièce. Alors, il va diffuser le son de manière différente d'une pièce à une autre parce qu'il va se configurer à la pièce pour avoir un son optimal. On n'a pas ça avec la nouvelle le HomePod mini. On n'a absolument pas ça. Mais ce qu'ils nous promettent, c'est un son formidable. Alors, j'ai hâte, vraiment, vraiment hâte de l'essayer parce que oui, je vais en avoir une. Mais par contre, j'ai plein de bémols par rapport à ce produit-là. C'est que si vous achetez cette enceinte connectée-là, vous allez pas vraiment nécessairement pouvoir la pairer pour regarder un film avec votre Apple TV, par exemple, parce que il va toujours avoir une espèce de latence. Ce qui fait que ça sera pas agréable. Vous allez voir les gens, les lèvres parler des personnes à la télé, puis quelques microsecondes après, le son arrivait à vos oreilles, ce qui fait que ça fait une dissonance et puis une expérience film vraiment très mauvaise. Par contre, vous pouvez appairer, oui, deux HomePod mini ensemble pour avoir un son plus grand, plus généreux dans une pièce. Vous en avez deux. Alors là, le son va être bon. Vous allez pouvoir l'appairer à l'Apple TV, mais le son va pas être nécessairement très chouette avec l'image. Fait que ça, c'est vraiment pour régler ça d'entrée de jeu. C'est une enceinte pour le son, mais pas pour l'accorder à l'image.
Non, c'est dommage. Tu vois, c'est ce que je disais. Appairer une télé en Bluetooth, c'est pas possible, quoi. Enfin, il y a trop de latence, comme tu dis. Ça fonctionne, mais il y a un décalage, quoi.
Alors, si vous l'utilisez pour des jeux, si vous l'utilisez pour des séries, des films, c'est pas très, très, très plaisant. Par contre, pour le son, la promesse, c'est que c'est à la hauteur. Dans cette petite boule-là, il va y avoir une espèce de caisson de grave avec une diffusion vers le bas. Moi, je l'ai regardé à l'intérieur parce que je m'intéresse au son et la diffusion du son du grave va aller vers en bas, mais ils ont une espèce de diffuseur qui fait que le son tape pas dans le meuble. Il va juste glisser tout le long du meuble ou à l'endroit où vous allez le disposer. Et juste en haut, vous avez deux petits haut-parleurs, on va les appeler comme ça, de grave qui font plus d'aigus, qui vont venir complémenter ce son-là. Alors, Ça promet d'être un son incroyable, je veux bien le croire, parce que au niveau du HomePod, ils ont fait très bien le travail. Au niveau du HomePod mini, je suis certain que ça va bien faire le travail. Il y a des affaires assez chouettes, c'est qu'on peut avoir une reconnaissance vocale. Ça aussi, j'aimerais l'essayer. J'ai pas eu la chance de l'essayer d'une personne à une autre. Alors, si Audrey demande des choses sur le HomePod mini, ben, elle peut pas, par exemple, demander ce qu'il y a dans mon agenda à moi. Elle va pouvoir juste demander ce qu'il y a sur son agenda à elle. C'est la sécurité, c'est la promesse, en fait. Au niveau de l'assistance, ben là, c'est les limites de Siri qu'on connaît. Siri est très limitée par rapport aux autres assistants. Alors, je martèle encore une fois que si vous voulez un vrai assistant, c'est pas chez Siri qu'il faut aller, c'est faut aller chez les autres crèmeries. Mais par contre, il y a des aspects intéressants de sécurité, de privacy de la donnée là, que Apple vend et met de l'avant. Alors, je pense qu'il y a deux facettes à ça. Là. C'est le fait que peut-être Apple met par défaut la sécurité de l'avant sur Siri pour camoufler le fait qu'ils n'ont pas encore toutes les interconnexions puis toutes les choses qui vont bien en arrière pour que Siri soit à la hauteur d'une Alexa, d'un Google et des choses comme ça. Alors ça, c'est le premier aspect. Et puis, ben, le deuxième aspect, ben, il y a c'est pas facile d'interconnecter de la domotique avec Siri parce qu'il faut faire patte blanche. Encore une fois, comme les câbles chez Apple, c'est qu'il faut faire partie d'une espèce de guilde ou payer des redevances pour que tes produits soient homologués pour fonctionner sur Apple. Ce qui fait que, de facto, vous avez un choix de domotique beaucoup moins grand. Alors, si vous voulez une enceinte intelligente ou Siri intelligent pour la domotique, un HomePod mini pour la domotique, parce que c'est vendu aussi comme ça, ben, dites-vous que vous allez toujours devoir payer le prix avec des produits toujours plus chers que les autres, avec des fois peut-être pas toutes les connexions comme les autres, et des fois, vous n'aurez peut-être même pas de choix de produits. Là. Typiquement, dans les caméras de surveillance avec Siri, HomeKit, parce que c'est très limité par rapport à ce qui se fait ailleurs. Bref, ça paraît d'être une super belle enceinte, on pourra pas l'avoir tout de suite. Le son a l'air d'être fantastique. Il y a plein de petits gadgets, comme lorsque vous allez démarrer une playlist, sur Siri, votre assistant, vous allez approcher votre téléphone et automatiquement, sur le téléphone, sera affiché ce qui joue. Ah, c'est des petits gadgets, c'est super intéressant, mais c'est pas nécessairement des deal breakers. Il y a aussi que cette enceinte-là sera compatible Thread. Thread, c'est un espèce de format d'un conglomérat, d'une entente qui s'est faite entre Google, et Amazon et d'autres fabricants pour que l'ajout d'appareils domotiques soit interrelié. Je vais finir par résumer. Si vous voulez une enceinte avec un bon son, vous êtes dans l'écosystème Apple et que vous avez toujours eu un peu peur d'aller dans les enceintes connectées, c'est la bonne enceinte. Au prix où c'est vendu chez Apple, je vous dis, c'est du vol. La qualité de les produits et la technologie qui est là-dedans, faut absolument acheter ça. Si vous doutez puis vous n'êtes pas encore certain, allez pas sur HomePod, allez sur HomePod Mini, testez. Après ça, vous ferez grossir votre écosystème.
Ouais, j'ai lu aussi qu'on ne pouvait pas faire travailler ensemble un HomePod et un HomePod mini, ouais. C'est un peu dommage. Ce que j'ai pas trouvé non plus comme info, c'est les watts. C'est tout con, mais t'achètes une enceinte, t'aimerais bien savoir le nombre de watts. Ben, on n'a pas l'info.
Alors, il y a l'info, t'as tellement raison, il y a l'info pour le chargeur, c'est une 20 watts, mais pas les watts de haut-parleur, ça t'as absolument raison. Mais encore une fois, t'sais, pour avoir bien testé HomePod, c'était pas un produit qui avait un wattage super énorme, mais c'était un produit où la maîtrise du son était là. HomePod, ça monte pas très haut en volume, en puissance, mais ça distorsionne jamais. C'est toujours un son impeccable, ça casse pas. Alors, je me doute que ça va être un peu ça. C'est pas tout le temps le wattage des haut-parleurs ou qui est important, mais c'est vraiment la maîtrise du son qui est super important. Mm-hmm. Fait que moi non plus, j'ai pas trouvé l'information, t'as raison.
Mais du coup, oui, je pense que c'est pour ça qu'ils mettent pas l'info, c'est que ils nous vendent un autre concept d'enceinte qui n'est pas basé que sur de la puissance watt, mais plutôt sur vraiment la fabrication.
Une maîtrise.
Et comme tu disais, une maîtrise. Et du coup, aussi, pendant la keynote, on a vu le HomePod mini, pardon, parfois branché, mais souvent sans fil. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il est avec ou sans batterie? Apparemment, c'est sans, donc il faudra forcément qu'il soit connecté à une prise de courant. Est-ce que tu as vu quelque chose d'autre, toi, par rapport à ça ou...
Ben, je te confirme que c'est une prise de courant parce que sur le site d'Apple, on explique le wattage qui est nécessaire pour l'alimenter. Alors, je te confirme absolument que c'est ça. Ça sera pas sur batterie, ça sera pas sur ça. Par contre, pour être un peu dans l'écosystème de chez Amazon, ils vendent beaucoup maintenant les vendeurs tiers, des espèces de batteries sur lesquelles tu vas brancher ton Alexa, par exemple, ton Echo, et tu vas avoir une enceinte connectée que tu vas pouvoir déplacer dans la maison, ce qui s'avère super intéressant, tu sais, quand tu es dans le jardin, ben, tu prends ton enceinte connectée sur batterie, puis là, tu vas avoir l'aspect domotique, intelligence, et ainsi de suite, tu vas pouvoir le trimballer. À la grosseur d'HomePod, c'était pas facilement pensable de faire ça, mais à la grosseur de HomePod mini, il va sûrement avoir des revendeurs tiers qui vont vendre des socles sur lesquels on va pouvoir brancher cette enceinte-là sur batterie. Ça, je suis pas mal certain que ça va arriver.
Mmh. Ouais, c'est une bonne solution, ouais. Ben écoute, j'ai vu qu'il a fait débat sur Twitter, ce HomePod mini que t'as mis en avant. Mais c'est surtout, en fait, le problème, c'est surtout l'assistant. Enfin, Siri ou pas Siri, et puis la protection des données privées, quoi.
En fait, il y a deux trucs là-dedans. C'est que ceux qui, avec qui je débattais, moi, ils vendent présentement HomePod mini, à la différence de HomePod, ils le vendent comme un assistant pour faire de la domotique, tatati tatata. Moi, je vous dis, si vous voulez un assistant, c'est pas Siri, faut aller. Parce que Siri est excessivement limité. Puis parce que l'autre bord de la rue, t'as deux fabricants qui s'appellent Google et l'autre bord Amazon, qui eux, dans leur cœur de métier, vendent de l'intelligence artificielle. Ils font ça. C'est leur métier, l'intelligence artificielle. C'est pas le métier nécessairement d'Apple pour le moment. Pour le moment, ils se concentrent beaucoup plus, puis on va le voir avec la nouvelle gamme d'iPhone, sur la photo. Ça, au niveau de la photo, ça, ils ont des équipes incommensurables. Mais pour l'intelligence artificielle, puis si, tu sais, entre guillemets, si vous vérifiez sur Twitter, le créateur de Siri renie Siri maintenant. Hein. Tu sais, Apple, Apple a acheté Siri, il a acheté l'intelligence de ça, il a acheté une équipe, son créateur renie Siri maintenant. Bon, une fois qu'on a tout dit ça, Siri est un bon produit si vous êtes dans l'écosystème Apple, mais c'est clairement pas le produit si vous voulez un assistant. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, que vous voulez demander qu'est-ce qu'il y a dans votre agenda, tout ça, ça va faire très bien le travail. Mais si par contre vous voulez, exemple, connecter ça à des choses sur Internet ou des automatisés ou même bidouiller, programmer, c'est vraiment pas le produit qu'il faut acheter. Si vous voulez vous faire ça simple et que vous avez un peu peur de ces principes-là, d'écoute, de ce qu'ils vont faire de vos données, tout ça. Alors là, je le répète, puis je mets ça sous bémol. Apple vend le fait qu'ils sont numéro un sur la sauvegarde des données privées. On les croit pour le moment. On n'a pas de preuve du contraire, mais on n'a aussi pas nécessairement de preuve du contraire dans les autres marques. Alors là, je sais, ça va monter aux barricades. Il y a eu des problèmes par rapport à ça. Mais une fois qu'on a tout dit ça, faut être froid dans cette démarche-là, puis dire bon ben clairement, est-ce qu'ils ont vendu Google toutes mes données, est-ce qu'ils m'écoutent tout le temps? Vous allez sur le site, ils disent à peu près les mêmes choses qu'Apple. Mais bon, je veux pas aller trop dans ce détail-là. Si vous voulez un assistant, vous êtes dans l'écosystème Apple, puis vous voulez quelque chose qui a une qualité de son incroyable, c'est ça. Puis je vais juste terminer sur le son incroyable. Ceux qui me débattent que le son va être incroyable comparativement aux autres. Faut comparer des pommes avec des pommes. Alors, ce que je veux dire par là, c'est sûr que si vous comparez une enceinte Echo à 40$ ou à 25€ versus un HomePod, c'est pas le produit qu'il faut comparer. Quand vous comparez HomePod à l'autre crèmerie en face, faut comparer ça avec un studio, un Echo Plus. Faut comparer des choses de haut de gamme pour le son. C'est vrai qu'Apple, pour le son, ils maîtrisent bien, mais les autres aussi font assez bien quand même.
Ouais, bah écoute, je pense que c'est un tour complet de l'HomePod mini qui est avant tout une et tu vois, le chargeur c'était mini, le HomePod mini c'est mini, donc ça fait débat, mais en tout cas voilà, c'est une très bonne petite enceinte et je pense qu'ils vont en vendre des milliers.
Oh oui, et puis je vais en acheter une, c'est sûr pour tester le son. Ça, ils maîtrisent bien. Mais là, la keynote, l'affaire la plus importante, et puis là il y a quelque chose d'incroyable. Audrey nous a informé sur l'écosystème Twitter à grandeur de la planète qu'elle allait changer de iPhone. Lorsqu'elle a vu les nouveaux iPhones, Audrey, parle-nous des nouveaux iPhones.
Alors oui, alors il faut que j'explique quand même la raison du pourquoi. En fait, j'ai installé, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai mis ça dans ma story, j'ai installé un petit studio pour vraiment pouvoir créer mes vidéos YouTube de façon beaucoup plus confortable, parce qu'à chaque fois je travaille sur mon bureau, il fallait que j'enlève tout, que je mette en place mes trucs pour filmer, enfin c'était devenu impossible vu que je fais plus de vidéos qu'avant. Du coup, j'ai acheté un super, un bon équipement, des tiroirs et tout, et surtout une grande planche pour pouvoir installer un banc titre, ça s'appelle comme ça. C'est un système, en fait, vous mettez des trépieds, une barre en haut, et vous fixez dessus votre caméra, votre micro, et du coup, vous pouvez filmer d'en haut comme ça. Donc, ça s'appelle un banc titre. Et quand j'ai acheté tout ce matériel, je me suis dit, mais avec quoi je vais filmer mon iPhone, puisque d'habitude, je filme avec mon iPad, ou à l'inversement, je filme mon iPad avec mon iPhone.
Forcément.
Voilà, forcément, sauf que il y a un moment, si tu veux, l'iPad, il est pas très léger, c'est compliqué de le fixer sur un trépied ou sur une poignée, enfin. Et puis l'iPad Pro, j'ai pas trop envie qu'il tombe d'un mètre de haut. Du coup, je m'étais dit, bien avant la keynote, je m'étais dit, je vais m'acheter un iPhone SE, l'optique est à peu près équivalente à l'iPhone XR, donc je vais avoir un bon résultat. L'iPhone XR est très bon au niveau optique, avoir vraiment des vidéos lumineuses et tout ça. Et puis là, Apple nous propose un iPhone 12, mais pas que, un iPhone 12 mini, c'est-à-dire à peu près de la taille de l'iPhone 7, sauf qu'il, bien sûr, son écran occupe tout l'espace.
Et là, franchement... À 4 iPhones, hein, on va en parler, mais 4 iPhones, et puis vas-y, franchement, quoi.
Ouais, en fait, franchement, il m'a tapé dans l'œil parce que quand j'utilise l'iPhone 7, ma compagne a récupéré mon iPhone 7 il y a déjà 2 ans. Et quand je l'utilise, alors j'ai une sensation un peu bizarre d'avoir un jouet dans les mains tellement il est léger par rapport à mon iPhone XR. Mais surtout, je me dis, quand je le mets dans ma poche, je me dis, waouh, ça rentre nickel, c'est pas comme le XR qu'il faut pousser et tout parce que c'est grand. Ouais. Voilà. Et je m'étais dit, du coup, mon prochain iPhone sera forcément plus petit que le 10R pour des raisons vraiment de pratique d'ergonomie. Voilà. Donc là, forcément, ils nous sortent un iPhone 12 mini, un iPhone 12 de taille classique. Donc je vais sûrement acheter un iPhone 12 mini. Je n'avais pas encore choisi la couleur, mais c'est quasiment sûr. De toute façon,
produit crade, au moins, non ? Produit crade.
C'est ça. Je me dis, je vais peut-être prendre le rouge, histoire de participer un peu à la recherche contre le Covid ou contre le SIDA. Enfin bref, avoir un petit geste solidaire, on va dire.
Alors, donc en effet, décris-nous tous les iPhones. Je me peux plus. Il faut que je sache.
Faut que tu saches. Alors en fait, Apple a sorti 2 iPhones. Un iPhone 12 et un iPhone 12 Pro, mais chacun d'entre eux est décliné en une taille différente. Donc on a un iPhone 12 de taille standard, c'est un écran 6,1 pouces, et ils nous ont fait un iPhone 12 mini avec un écran de 5,4 pouces. Ils nous ont sorti également un iPhone 12 Pro qui est en 6,1 pouces, donc en fait le 12 et le 12 Pro font la même taille, mais ils nous ont sorti un iPhone 12 Pro Max, comme c'était déjà le cas l'an dernier, de 6,7 pouces. Donc entre l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max, il y a une belle différence d'écran, puisqu'il y a, 1,3 pouces quand même d'écart, ce qui est quand même pas mal, ça fait à peu près 4 cm.
Si vous nous écoutez en audio, là, je suis en train de mimer, là, ça donne ça là, avec mes doigts, là. Vous voyez? Ah non, vous voyez pas, vous êtes en couche, je suis désolé.
Ben non. Alors, ben non, en fait, un pouce, c'est 2,54 cm.
Ouais.
Donc 1,3 pouces, voilà, on va dire que ça fait. Enfin, de toute façon, il faudra les comparer en magasin, mais en tout cas, moi, je suis sûre que la taille de l'iPhone 12 mini va faire un carton, puisque c'est la taille de l'iPhone 7, de l'iPhone 8, à quelques millimètres près. Et c'est vraiment des formats. C'est idéal comme format, en fait, pour un téléphone, moi, je trouve. Surtout si on a une tablette, si on a un iPad.
Ouais, t'as raison. Puis moi, qui étais amoureux du design du iPhone 4 et 5, où on avait des bords plus droits. Un petit peu comme les nouveaux iPad Pro, puis le iPad Air de maintenant. Ah ben, j'étais ravi. Au niveau design, ils sont vraiment, vraiment beaux.
C'est ça. En fait, au-delà de la taille et de la déclinaison de la gamme, il y a un nouveau design qui ressemble vraiment à l'iPad Pro ou à l'iPad Air 4 qui va sortir. C'est vraiment le design. On revient à des bords carrés et non plus des bords arrondis. Pour la prise en main, je pense que c'est vraiment mieux aussi. Même si on a des coques et tout. Moi, quand j'utilise mon 10R, quand je fais mes tutos, j'enlève la coque. Et clairement, c'est, on dirait un savon, quoi. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai, ça glisse. C'est pas possible, en fait, de l'utiliser au quotidien sans coque. Sinon, il glisserait tout le temps, quoi. Ouais. Donc, les bords carrés, eh ben, semblant de rien, je pense que ça a vraiment aidé aussi à la prise en main. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. La plus grande nouveauté, bien sûr, c'est qu'ils sont, ce sont les premiers iPhone 5G. Ouais. C'est vraiment l'argument qu'ils ont mis en avant pendant la présentation, avec des débits de dingue. Voilà. Enfin, ça a duré assez longtemps quand même, j'ai trouvé. Donc oui, ça va plus vite. Bon, la 4G, quand tu captes bien, ça va déjà assez vite, je trouve. Donc la 5G sur tous ces modèles d'iPhone 12. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a ils sont déclinés. Alors l'iPhone, on va commencer par l'iPhone 12. Donc il est décliné en 5 couleurs. Donc on a du noir, du blanc, du rouge, du comment ils appellent ça ?
Du vert malade. Du vert malade.
Ouais, c'est, ça. C'est ça. Et je l'ai vu. Attends, cette couleur existait déjà sur le 11 et elle est quand même jolie. C'est vraiment un vert pâle, mais en vrai, il est plus joli qu'à l'écran, je trouve.
Vous savez, quand vous allez chez un concessionnaire automobile, des fois, vous avez des rabais sur les véhicules qui sont de l'année, mais que personne ne veut acheter. Ben, c'est la couleur qui fait défaut, c'est ce vert-là. C'est exactement ces véhicules-là. Ben, c'est exactement la couleur du... Je blague, c'est une question de goût, c'est subjectif.
Oui, et puis non, mais je te dis vraiment, le 11, j'ai une copine qui l'a en vert, et il est vraiment beau. C'est très délicat comme couleur. Enfin, moi, je trouve pas ça moche du tout. Et puis, on a une dernière couleur, c'est le bleu.
Oui.
Donc, voilà, on est en bleu. Donc, il n'y a pas de jaune. Voilà, s'il y avait eu un iPhone 12 mini jaune, t'imagines, là, j'aurais été ravie. Mais bon, il va falloir choisir la couleur.
Alors, nouveau revêtement au niveau de la vitre. Il y a quelque chose d'un peu plus dur. J'ai hâte de voir les premiers tests, les premiers drop tests de ça, les premiers tests de choc. Ils nous promettent quelque chose de 4 fois, 5 fois plus résistant, c'est fou.
Bah, c'est vraiment une bonne nouvelle qu'ils aient continué à travailler là-dessus, parce que des écrans cassés, malheureusement, il y en a pas mal. Donc là, c'est apparemment, ça s'appelle Ceramic Shield, c'est ça le...
Oui, c'est ça. Bon, en fait, c'est des noms marketing. C'est ça, c'est des noms marketing. Là, c'est du, j'ai lu, c'était du diamant quelque chose. Là, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le vert est plus résistant. Déjà, le 11, ils avaient fait des bons progrès par rapport à la dureté de tout ça. C'est chouette parce que il y a encore un dos en verre. Hein. On n'a pas encore de dos de métal. C'est vraiment un dos en verre. Alors, c'est bien que les deux côtés soient protégés avec un verre plus résistant. Mais ce qu'on serait prêt à dire qu'il faut pas mettre de coque, Audrey, je suis pas encore certain, moi.
Non, franchement, non. C'est clair que vu le prix l'objet, on va mettre une coque, ouais. Des vestiaux, c'est ça que je cherchais, ouais. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que donc l'iPhone 12 est en aluminium, contrairement à l'iPhone 12 Pro, qui est en
acier... Stainless steel, quelque chose, là,
ouais. C'est un terme... acier chirurgical, truc comme ça.
Ouais, bon. C'est encore là du marketing.
Franchement, mais... ouais. Ouais, voilà, c'est clairement pour vous faire dépenser plus, à mon avis. Alors, l'iPhone 12, qu'est-ce qu'il a ? Surtout, il a la puce A14. Donc, le processeur qui est beaucoup... Enfin, en fait, ça, clairement, c'est des trucs techniques. Tous les ans, c'est mieux que l'année d'avant. Voilà. Donc, forcément, ils évoluent comme l'informatique a toujours évolué au niveau de la puissance, de calcul, je sais plus combien de milliards d'opérations par seconde. Enfin, de toute façon,
la loi de Moore,
ça sera forcément toujours plus rapide que les modèles de l'an dernier. Là, je suis en train de regarder le petit visuel qu'on a. Ah, si. On a quand même l'écran qui est désormais, alors attention, Super Retina XDR. Quand j'ai vu XDR, j'étais morte de rire parce que je pensais vraiment à MDR. Et j'ai souri en fait en voyant XDR, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc en gros, c'est du HDR, enfin du, non, même pas du HDR, du, je sais pas, du XDR Super Retina.
C'est mieux que l'année passée encore une fois. Moi, je t'avoue que ce qui a retenu vraiment mon attention... C'est MagSafe, et quand j'ai vu MagSafe, tu vas nous le décrire, mais quand j'ai vu MagSafe, je me suis rappelé d'un épisode où Audrey me disait « Faudrait pas se surprendre qu'un jour, il n'y ait plus du tout de façon de brancher l'iPhone, que ce soit un peu comme l'Apple Watch. » Est-ce que tu penses que c'est le début de MagSafe? Puis tu vas peut-être nous le décrire ce que c'est.
Ouais, ben j'ai prévu d'en parler juste après l'iPhone 12 Pro. J'ai fait un petit historique et tout.
Ah cool, c'est vrai.
Un peu plus bas.
Désolé.
Tu vas voir. Non, il n'y a pas de souci. Alors, bon, clairement, les iPhone 12 sont mieux que les iPhone 11. Voilà, je pense qu'il y aura 10 000 articles techniques. Moi, j'ai pas forcément envie de rentrer dans tous ces détails-là. Tout ce que je vois, c'est que ils bossent sur la solidité de l'écran. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que quand on voit le prix que ça coûte pour faire réparer, voilà, ça fait un peu mal. Puis voilà, nouveau design, 5G, plusieurs tailles, donc ça, c'est bien. Et ce qui vous fera acheter plutôt un iPhone 12 Pro, hormis que vous avez plus d'argent à dépenser, c'est surtout qu'en fait, au niveau optique, l'iPhone 12 Pro est clairement un cran au-dessus, puisque vous avez trois capteurs au lieu de deux. Je vais pas rentrer non plus dans les détails techniques de l'optique, mais enfin, j'ai l'impression qu'Apple vend non plus un téléphone, mais un appareil photo avec lequel vous pouvez téléphoner. Clairement, ils ont basé tout quasiment leur com sur l'appareil photo. Ça durait assez longtemps.
C'était assez long, oui, effectivement. Ouais, c'était même un petit peu ennuyant par moment, effectivement.
Voilà, donc les gens qui utilisent vraiment leur iPhone pour faire de la photo, limite, pas de la photo amateur, mais filmer plutôt en usage pro, l'iPhone 12 Pro porte bien son nom, du coup, puisqu'il va vraiment intéresser les gens qui ont des besoins professionnels au niveau de la prise de vue. Là, je pense qu'on peut passer ce cap-là et se dire que ça y est, on a quasiment...
Vous pouvoir faire un film qui peut aller facilement à Hollywood sans problème si vous avez une belle histoire. Il y a aussi le LiDAR où là, c'est un peu comme l'iPad Pro, un espèce de détecteur 3D des pièces qui va faciliter certains nouveaux usages de tout ce qui est réalité augmentée. Mais pas que, hein, ils servent du LiDAR en arrière de l'appareil photo pour améliorer certaines prise de captation de photos aussi. Alors oui, un ultra téléphoto, ultra grand angle, comme dit Audrey, c'est dans le... Il n'y a pas mieux. Ça va arrêter là, le débat. Au niveau téléphone, photophone, c'est le top.
C'est ça,
top.
Alors, pour résumer, au niveau des prix, donc l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12, en fait, ce sont exactement les mêmes appareils, sauf que la taille change. Sinon, au niveau technique, c'est exactement la même chose.
Ouais.
Bien sûr, le modèle d'iPhone 12, le plus grand, aura une légère autonomie. Son autonomie sera légèrement supérieure, mais sinon, c'est les mêmes. Ce qui n'est pas le cas pour la gamme Pro. L'iPhone 12 mini commence à 809€. Pour 64Go, donc là, j'ai un peu râlé. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils nous vendent encore du 64Go, mais bon, fallait bien que je râle un peu. Et puis, donc, l'iPhone 12, par contre, donc en taille, on va dire standard, commence à 909€. Et vous ne payez pas moins cher, même s'il n'y a plus de chargeur dedans. On en a déjà parlé. Voilà, donc les deux iPhones sont identiques, hormis la taille et du coup, un petit peu l'autonomie pour le modèle le plus petit. L'autonomie sera forcément un peu inférieure.
Alors, comparativement à l'année dernière, la gamme d'entrée, le 12, a un écran OLED, ce qui n'était pas le cas dans la version 11.
Ah oui.
C'est un écran LCD. Alors, au niveau de l'écran, vous avez la même chose au niveau du Pro et du normal. Alors ça, ceux qui sont maniaques d'avoir une belle image, vous n'avez pas de problème avec les deux écrans, que ce soit Pro ou pas Pro. Ton conseil, toi, Audrey, si on avait à choisir, on m'a posé la question, j'ai pas su répondre. Ce serait quoi, toi, le 12 ou le 12 Pro?
Bah, comme je te disais, s'il n'y a vraiment pas des besoins ultra poussés en photo, le 12.
Bah oui, ouais, je suis d'accord avec.
Parce que le 12 Pro, donc, il coûte quand même 1159€. Par contre, il a 128Go de stockage. Mais c'est quand même... je suis vraiment nul en maths. Moi, c'est quand même presque 300€ de plus que le 12. Et puis, l'iPhone 12 Pro Max, il est à 1259€. Donc là, ça commence vraiment à monter. Donc, il est plus grand, il a une plus grande autonomie, mais il a aussi une meilleure optique que la version 12 Pro normale. Donc, je pense que les gens vont vraiment... l'iPhone 12 Pro, ça va être des gens vraiment qui gagnent leur vie en filmant ou en faisant des photos. Je sais pas trop ce qui justifierait de mettre ce prix, hormis, bien sûr, envie de se faire plaisir. Ça, on a déjà eu ce débat-là. Les gens qui nous écoutent, si vous avez envie d'acheter un iPhone 12 Pro, mais foncez, on porte aucun jugement là-dessus. C'est juste que nous, on se dit que déjà l'iPhone 12, à notre avis, il est déjà largement suffisant pour faire des très belles photos. L'iPhone 10R, moi, je fais des très belles photos avec. Même, en fait, comme on disait, il y a aussi l'œil du photographe qui fait beaucoup. Et on faisait déjà des belles photos avec les iPhone 7, 8. Voilà. Mais là, on passe un cap. C'est vrai que c'est plus vraiment des téléphones, c'est vraiment... La gamme Pro, ça commence à être des appareils photo de poche, quoi.
Alors, on rappelle un peu la gamme. On a, pour ceux qui n'ont pas nécessairement les budgets, on a un iPhone SE 2, qui est un processeur de l'année passée, mais qui fait très, très bien le travail avec un petit écran. On a le XR qui est encore au catalogue. On a le 11 qui est encore au catalogue. Et là, le 12. Et là, dans le 12, vous en avez 4. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de choix à beaucoup, beaucoup de prix. Est-ce que toi, j'aimerais avoir ton avis, tu trouves pas que la gamme commence à être un peu dispersée? Ça devient difficile à expliquer pourquoi on garderait un XR dans la gamme, par exemple, ou un 11 de l'année passée quand il y a un SE2?
Oui, j'avoue que le 10R, je pensais vraiment qu'il allait sauter, qu'il allait disparaître. Après, il a que 2 ans. Ouais, je sais pas trop. Je peux pas te dire. Je pense qu'en fait, tu vois, il y a quelqu'un qui nous a dit sur Twitter, et je trouvais ça intéressant, qui nous a dit, est-ce que tous les produits Apple vont se décliner en mini, normal et maxi? Tu vois, HomePod mini, iPhone mini, Mac mini, enfin, tu vois. On a vraiment une... J'ai l'impression qu'Apple, plus le temps passe, plus elle étend sa gamme de prix pour que chacun y trouve son bonheur, quoi. Tu vois, parce que avant on avait 2 iPhones. Il y avait quoi, il y avait pas beaucoup de différence entre les deux, donc c'était tout de suite inabordable pour quand même beaucoup de monde. Là, l'iPhone SE est à moins de 500 €, donc on peut s'acheter un iPhone aujourd'hui pour moins de 500 €, et ça, c'était pas le cas avant, quoi.
Une Apple Watch SE, bon. Ouais, il y a toutes sortes de gammes, vous allez trouver votre bonheur, iPad mini, iPad Air, iPad normal, iPad Pro. C'est vrai qu'on commence à... Bon, c'est la spécialité de Tim Cook hein, aussi, c'est un gars qui fait du développement de produits assez personnalisés dans son mantra, c'est un peu ça. Alors, c'est pas anormal qu'il fasse ça, mais bref, nous, on conseille, si vous allez dans le 12 normal, ça fait très bien le travail. Normalement, vous ne devriez pas voir les limites de l'appareil avant plusieurs années. On le répète, hein, vous allez avoir au moins 50 produits garantis d'OS, on va dire. L'OS est garanti pendant 5 ans.
2 ans de garantie matérielle et puis 5 ans de support de mise à jour. Donc, ça laisse de quoi voir venir. Et puis, ouais, l'iPhone 12, on attend, bien sûr, on peut précommander qu'à partir d'aujourd'hui. Donc, on n'a pas encore du tout de retour de test. Mais bon, Apple fait des iPhones depuis très longtemps maintenant, ça m'étonnerait qu'il y ait des problèmes sur ces produits-là. Mais donc, du coup, j'enchaîne sur, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le retour du MagSafe.
Oh oui,
parce que, en effet, c'est un truc, j'ai fait un petit historique, si tu veux bien. Pour moi, c'est vraiment la bonne nouvelle. Parce qu'en fait, le MagSafe, c'est pas du tout récent, ça existe depuis 2006. C'est en fait le connecteur d'alimentation qu'on avait sur les MacBook Pro qui ont été présentés en 2006. Et en fait, au lieu de brancher votre ordinateur avec un connecteur standard, là, c'était un connecteur aimanté. Ce qui voulait dire que quand vous prenez les pieds dans le fil de l'ordinateur, et ça, c'est arrivé à tout le monde, et ben en fait, le connecteur, hop, se démagnétisait, et du coup, l'ordinateur ne faisait pas un vol plané. Donc ça, c'était une super idée de génie. Ils l'ont abandonné, malheureusement, en 2016, avec l'arrivée de l'USB-C sur les MacBook Pro. Mais franchement, c'était quand même pendant 10 ans, on a eu ça sur nos MacBook Pro, sur nos MacBook, et moi je trouvais ça vraiment bien. T'as eu des MacBook Air
Oui, puis moi aussi je le regrette. J'ai un petit adaptateur sur mon USB-C qui reproduit un peu le MagSafe. Ce qui serait chouette, tu vois, c'est que on ait une espèce de MagSafe qui soit multi-device, qui soit bon pour l'iPad, qui soit bon pour l'iPhone. Puis j'extrapole qui serait peut-être bon pour le évidemment il y a une question d'ampérage et de watts par rapport à nos produits, mais c'est vrai que c'était un produit vraiment cool à avoir. Et puis en plus c'était réversible, t'avais pas de souci, est-ce que c'est en haut, c'est pas en bas, non, tu le collais puis pouf, ça s'alimentait.
Oui, puis tu sentais bien le magnétisme, tu l'as approché à peine, il était aimanté. Donc il y a eu quand même 2 générations de MagSafe, celui qui était rectangulaire et puis un beaucoup plus allongé en L. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé avec les iPhone 12? Eh ben Apple a intégré le MagSafe dans l'iPhone, dans le dos de l'iPhone en fait, sous une forme de cercle on va dire. Ce qui veut dire qu'en fait Apple vend un chargeur MagSafe, donc vous prenez le chargeur de l'Apple Watch et puis vous l'imaginez en plus grand et vous pourrez donc coller votre iPhone dessus, magnétiser votre iPhone dessus et la recharge se fera. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que du coup, alors je vais peut-être pas forcément l'acheter, hein, je pense que je vais garder mes chargeurs et mes câbles habituels, mais je me dis que ça peut être sympa d'autant plus que même si Apple a rendu compatible ses iPhones avec l'induction depuis pas mal d'années, on était limité à une recharge en 7,5 watts maximum. Et là, le MagSafe, il va jusqu'à 15 watts. Donc, on va recharger en induction, mais plus vite qu'avant.
Ouais, il y a ça qui est intelligent. Puis, il y a le fait aussi que lorsque vous déposez votre téléphone sur une charge sans fil, ça m'arrive très souvent, tous les jours, et tous ceux que je connais aussi, des fois, on le place pas bien. On l'a peut-être un peu trop décalé ou peut-être un peu trop en haut, peut-être un peu trop en bas quand vous le déposez, ce qui fait qu'il charge pas. Tandis que là, avec MagSafe, si vous allez le déposer sur l'appareil compatible MagSafe, hein, parce que maintenant, ça va être une nouvelle norme chez Apple, et vous allez pouvoir le déposer, et automatiquement, l'iPhone va se placer comme il faut. Alors, il y a rien qui se branche, là. C'est encore une fois à déposer un objet. C'est aussi simple que maintenant. Sauf que, au moins, il va se positionner au bon endroit pour avoir la recharge maximale. Alors ça, je me réjouis. Il y a aussi, et puis là, je dois t'avouer que j'ai repris ta phrase parce qu'elle était merveilleuse. Il y a aussi maintenant, grâce à ça, la possibilité d'avoir toutes sortes de petits appareils que vous allez pouvoir aimanter en arrière, au dos de l'appareil.
Oui, c'est ça. En fait, je pense que les accessoiristes vont vraiment se régaler, puisque du coup, comme les aimants sont dans l'iPhone, on va pouvoir coller un porte-carte. Donc ça, Apple en propose. On va pouvoir, enfin, j'imagine qu'ils mettent les ados avec, ils aiment bien de se mettre leurs photos sous leur coque.
Ouais.
Ah, ils ont une coque transparente et puis ils adorent mettre leurs photos derrière. Et du coup, je me dis, les accessoiristes, ils vont s'éclater avec ça parce qu'ils vont créer un truc où, même, je sais pas, des mini écrans qui viendraient se magnétiser sur le dos de l'iPhone. Enfin, on peut imaginer énormément de choses. C'est comme si on est greffé quelque chose au dos de l'iPhone. Ouais. Et donc justement, en fait, je voulais aussi revenir sur le... Il y a un chargeur à induction qu'Apple avait présenté, je me souviens plus de son nom, AirPower.
AirPower, ouais, c'est ça.
Celui Apple qui avait présenté... c'est ça. Apple avait présenté une plaque, en fait, de recharge à induction il y a à peu près 2-3 ans. Ça doit être ça?
Bah, en fait, il l'avait présenté, mais ça n'a jamais vu le jour parce que c'était un délire d'ingénieur pour que tout fonctionne bien. Il y avait trop d'aimants proches puis de bobines pour recharger. Fait que bref, au niveau ingénierie, ils ont jamais réussi à faire un produit qui tenait le bout de la promesse de ce qu'ils nous avaient présenté, c'est-à-dire un tapis où on mettait l'appareil n'importe où puis ça se chargeait bien. Hein, je vous expliquais tantôt que des fois on le déplace un petit peu puis ça charge pas bien. Ben la promesse à l'époque de AirPower, c'était un espèce de petit tapis, on plaçait n'importe où puis ça se branchait bien.
Ben donc du coup il manquait les aimants en fait sur l'appareil.
Ben voilà.
Et là je pense qu'ils ont résolu le problème. Du coup puisque peut-être qu'ils vont nous faire une station de recharge comme ça quand tous nos appareils seront équipés de ces petits aimants. Du coup comme Matt le dit, on pourra le poser et puis il ira hop se loger, se magnétiser directement à l'endroit voulu pour que la charge se fasse. Donc c'est vrai que le AirPower c'était bien parce qu'il y avait l'iPhone, l'Apple Watch et puis les AirPods aussi. Enfin tout ça a été posé. Mais bon, techniquement, ils n'ont pas réussi, donc c'est quand même hyper rare qu'Apple présente un produit et en fait le commercialise pas.
Ouais, vraiment.
Donc là, ils ont pris leur revanche.
Vraiment. Puis, ce que Audrey vous disait, c'est qu'on va pouvoir mettre des espèces de petits accessoires en arrière. Alors, il va y avoir des accessoires pour l'automobile, il va y avoir des accessoires, comme elle disait, pour les cartes. Puis j'ai bien ri quand j'ai lu ton tweet par rapport au petit portefeuille qu'on peut coller sur l'iPhone. Alors que ça fait des années qu'Apple nous essaye de nous mettre nos cartes dans Wallet.
Ouais, franchement, quand j'ai vu ça, donc ils vendent quand même un porte-carte, donc qui viendra ils vendent des coques MagSafe, donc qui vont se magnétiser directement sur l'iPhone, donc pour que ce soit bien positionné. Et puis par-dessus ça, vous allez pouvoir mettre un espèce de porte-carte magnétique aussi qui va s'aimanter. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils vont pas nous faire ressortir nos cartes de wallet pour mettre... En plus, enfin personnellement, je trouve ça un peu disgracieux. On dirait un peu une verrue quand même au dos de l'iPhone. Ouais. Après, on m'a tout de suite argumenté en disant, oui, mais j'ai des cartes qui passent pas dans wallet, donc ok, pas de souci. Mais j'ai trouvé ça un peu cocasse de nous dire... faut payer avec Apple Pay, faut faire du sans contact, faut rentrer vos cartes de fidélité dans Wallet et tout. Et là, nous vendre ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe?
C'est la cohérence produit qui n'était pas là pour toi, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Ça, c'est clair. Alors, pour complémenter tout ça, ils ont vendu des accessoires qui vont s'installer au dos du téléphone. Mais un tout petit Rikiki MagSafe Duo, c'est quoi ça?
Ah, c'est trop bien, en fait, c'est trop mignon. Alors, déjà, il y a le chargeur MagSafe qui vont vendre 45€ quand même, donc ça sera l'équivalent du galet de l'Apple Watch, mais donc pour l'iPhone. Ils vont vendre le MagSafe Duo, donc c'est comme un petit étui qui s'ouvre en deux. Ouais. Et d'un côté, vous allez pouvoir poser votre iPhone pour qu'il se recharge, et d'un autre côté, vous allez pouvoir recharger votre Apple Watch. Apparemment, il pourra pas recharger les deux simultanément.
Non.
Si, mais si on imagine ça en nocturne, tu vois, tu laisses ça sur ta table de nuit... Ben, en fait, dès que l'un est chargé, à mon avis, l'autre se charge, quoi. Tu vois, l'Apple Watch se charge assez vite. Donc, si, j'ai lu ça. Peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai bien lu que les deux pouvaient pas se recharger simultanément, les deux appareils.
Oh, la gaffe. C'est une gaffe, ça, d'après moi.
Ben, on n'a pas de prix, on n'a pas de date pour l'instant. On sait pas, c'est pas encore vendu. Ils l'ont présenté, mais bon. Peut-être que ça sera comme le Air Power, il va s'évaporer. Je sais pas.
C'est powerisé. Ça fait le tour de MagSafe. Moi, je trouve honnêtement que c'était la bonne nouvelle chez iPhone. Au-delà du fait que ben on a un nouveau meilleur iPhone, super, plus résistant, plus. Ben là, on avait vraiment un nouveau produit qui fait vraiment une différenciation par rapport à celui de l'année passée. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un XR, quand le 11 est sorti, ouais, ok. Tu pouvais avoir un petit peu plus. Mais là, cet élément-là est assez différent et amène des nouveaux usages qu'on pourrait dire, ah ben ouais, je veux acheter le 12 parce que je veux MagSafe, parce que je veux avoir les accessoires MagSafe. Hein, ils ont montré une espèce de petit dock dans l'auto que vous allez pouvoir mettre. Vous savez, hein, ces petits docks qu'on achète sur Alibaba, pas trop cher et qui marchent jamais bien, aimanté pour mettre ça dans l'aérateur.
J'en ai un, moi.
peut-être aussi que le bitume sur lequel je roule est trop bossé pour décrocher toujours mon petit adaptateur, mais là vous en aurez un MagSafe. Alors tout va être MagSafe, les producteurs, les équipementiers vont être très très contents par rapport à ça. Ça c'est l'élément de distanciation du produit que je trouverais super intéressant cette
année. Ouais. Et puis je suis sûr qu'Apple a d'autres accessoires en réserve pour venir se coller comme ça au dos de l'iPhone. Bon, voilà, vous regarderez sur le site d'Apple ces accessoires et notamment le porte-carte, parce que là je l'ai sous les yeux et ça me fait rire. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça trop bizarre, quoi.
C'est aussi laid que, tu sais, l'espèce de coque Apple avec une batterie intégrée, là, je me rappelle plus du nom.
Ah ouais.
Mon Dieu,
ouais.
Que c'est laid.
Ah, on dirait une verrue, en fait. Ouais, c'est vraiment laid.
C'est vraiment moche. Bon, ben ça fait le tour un peu des éléments par rapport au iPhone. J'aimerais vous inviter peut-être à nous laisser un commentaire pour savoir si vous avez trouvé des éléments super intéressants ou est-ce que vous allez en acheter un cette année. Vous savez, vous pouvez nous laisser un petit commentaire ou une note sur iTunes. Ça serait intéressant de partager votre avis, que ce soit sur le HomePod Mini, si j'ai dit des bêtises, ou si vous êtes totalement d'accord avec moi, ou la même chose pour Audrey. Vous pouvez faire ça sur le lien, il va être dans les notes de l'émission, vous allez pouvoir cliquer là-dessus. Audrey, petite réflexion personnelle du mois. Moi, j'avoue que j'ai rien fait, mais rien de rien. C'est tout Audrey qui a préparé les notes aujourd'hui. Audrey.
Bah écoute, moi, j'ai pas travaillé non plus là-dessus. Oh là là, on va avoir une étoile à cause de ça. Non, clairement, Apple continue d'innover. Je me dis, il y a plein de petits détails qui font que les gens, enfin, ça crée du débat, mais en même temps, ça fait parler des produits. Tu vois, des fois, c'est à se demander si le coût du chargeur, c'est pas une raison pour qu'on parle encore plus de leur iPhone 12. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui me font pas mal réfléchir en ce moment. J'ai publié à l'instant là, tout à l'heure, un article sur mon site à propos de ce fameux chargeur, notamment parce que j'avais un petit coup de gueule à pousser sur les gens qui râlent tout le temps parce que ils ont plus les acquis qu'ils avaient avant. On est en plein dedans. On parle d'iPhone, mais avec le Covid, c'est pareil. Dès que les gens doivent limiter leurs mouvements ou leurs déplacements, ou les gens qui fréquentent, ce que je veux dire, c'est que faire une concession pour le bien général, c'est quelque chose que les gens ont du mal à faire. Et que ce soit pour l'écologie, que ce soit là dans le cadre du Covid, je trouve assez étonnant que même quand il s'agit d'un virus, les gens râlent beaucoup parce qu'on est plus limité qu'avant. Je sais pas comment ça se passe chez toi.
Ah, c'est guère mieux là. On a des antis, plein de trucs maintenant. C'est pas beaucoup mieux. Je pense que ça fait référence au changement en général. Contrairement à ce qu'est notre vie en général, notre cerveau veut pas totalement tout le temps changer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à notre naissance jusqu'à notre mort, notre corps va changer. Alors la nature va changer. Les saisons changent tout. Tout change autour de nous. Mais des fois, nous, on veut pas changer. Et ça, c'est assez surprenant de voir ça dans la nature humaine, des gens qui sont très, très réfractaires au changement, qui sont très réfractaires à certaines façons de s'adapter. On n'a pas le choix, c'est un virus, mais en même temps, on vit. Il y a eu une guerre, il y a eu des gens qui ont fait des affaires beaucoup plus compliqués qui se sont adaptés sans forcément crier haut et fort. Non, non, je mettrai pas un petit bout de tissu devant mon visage. Tu sais, c'est des choses qui sont questionnables. C'est des choses qui sont, par ailleurs, très intéressantes à comprendre sur la nature humaine, mais ça a toujours un attrait au changement. Et tu vois, je lis beaucoup sur la gestion du changement maintenant avec les gens. Parce que c'est pas forcément évident d'amener des gens. Et puis moi, je suis dans le domaine des technologies, tu vois. Et puis je suis dans le domaine de l'info nuagique, du cloud, AWS, Azure, tout ça. Ça c'est mon pain quotidien. Et c'est pas tout le temps forcément évident d'amener des gens dans le changement, dans les nouveautés. Et c'est très intriguant pour moi. Je me questionne beaucoup, surtout dans le domaine des TI des fois. En technologie, des gens qui ont de la difficulté à vouloir changer, alors que c'est un domaine qui change beaucoup. Alors, tu peux comprendre que des fois, d'autres aspects de ta vie ou des nouveaux produits, comment ils faisaient avant. Tiens, je vais peut-être avoir une réflexion personnelle. Allez voir le dernier vidéo de Léo Duff qui parle justement des fanboys Apple. C'est super intéressant sa réflexion parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui chialent, qui gueulent sur « Oh, Apple, c'est plus ce que c'était », tout ça. Mais Apple, et comme le reste des choses dans la vie, ça change, ça évolue. Alors, ceux qui sont restés campés sur « ça devrait pas être ça, ça devrait toujours être ça » ou « Steve Jobs aurait jamais accepté ça », ben, il va falloir que vous ajustiez votre façon de réfléchir de par la de produit, puis plus globalement, dans votre vie en général, je dirais.
Ouais, c'est ça. En fait, si on... T'as l'impression que les gens sont un peu dans le déni, dans la non-acceptation du changement et... Le Covid, c'est un excellent exemple parce que, au fait, notre vie a changé. Clairement, ça fait un an qu'on vit avec ça. On n'est vraiment pas à plaindre dans nos pays respectifs, hein, l'un et l'autre. Je pense qu'on on a manqué de rien malgré tout ça. Moi, les gens, ils me fatiguent un peu en ce moment avec tout ça, avec les théories du complot, les négationnistes et tout. Bref, ça pullule sur Facebook, partout. Je pense que les gens relativisent vraiment pas assez. Comme tu dis, il y a eu des guerres, il y a eu plein de choses. Chaque génération a vécu quelque chose. Ben voilà, nous, ça sera. On a 40 ans. Nous, ça sera peut-être le Covid, le truc le plus dur qu'on aura vécu dans notre vie. Bon ben, franchement, comme tu dis, mettre un masque, c'est pas la fin du monde, quoi.
Et puis, je vous invite à aller voir une petite courbe. Vous faites la recherche Twitter. Ça va bien aller. Écrivez courbe du changement ou étape du changement selon Kubler-Ross. Et vous allez voir qu'on traverse toujours à peu près 4 étapes dans le changement. Il y a le déni, il y a le choc, il y a la colère, ça c'est les étapes négatives. Il y a la dépression, l'anxiété, ça c'est des étapes encore négatives où là on est plus du tout en confrontation. Il y a des étapes d'acceptation, d'expérimentation, on essaye, on sort un petit peu de notre quotidien. Puis après ça, il y a la décision puis l'intégration. Tout ça là, c'est des courbes normales dans le changement. C'est juste qu'il faut pas rester dans le déni, dans le choc, dans la colère. Faut évoluer. Parce que sinon, c'est pas bon pour votre corps, c'est pas bon pour votre entourage, c'est pas bon pour personne autour de vous. Alors, faites une petite recherche par rapport à ça. Et puis tiens, regarde, autre élément de réflexion, ça c'est mon ami Guillaume Vendée avec qui je fais Relife, un podcast sur le développement personnel qui me l'a montré. Application vraiment chouette si vous voulez faire de la méditation, si vous voulez comprendre la méditation, si vous voulez peut-être essayer la méditation, je vous conseille Insight Timer, qui est une application, on va dire, d'amélioration du quotidien, de anti-stress, début de méditation, qui est un écosystème complet où vous allez avoir des espèces de coachs, c'est aussi en français, il y a de l'anglais, mais il y a aussi du français, des coachs qui vont vous expliquer des trucs, des coachs qui vont vous aiguiller, faire la méditation adaptée pour vous. Il y a peut-être aussi des fois que vous voulez faire de la méditation tout seul. Alors, si vous voulez commencer à sortir du déni, de la colère, du choc, calmez votre esprit. Et Insight Timer, c'est vraiment une application vraiment chouette. Un bel écosystème gratuit. Il y a une version payante, mais gratuit, sur lequel vous pouvez découvrir des choses sur vous, puis réfléchir ou vous donner un moment de réflexion pour arrêter d'être dans le négatif et de commencer à accepter. On va dire ça comme ça.
C'est ça, ouais. Bon, tu vois, on a une réflexion spontanée, tu vois, c'est bien.
On est capable. Alors, on va terminer l'émission ainsi, Audrey, si on veut te joindre, si on veut débattre avec toi et surtout si on veut trouver tes superbes, superbes vidéos de formation qui sont totalement gratuites sur sa chaîne, oui, on te retrouve où, Audrey?
Alors, sur Twitter, @AudreyCoulot, C-O-U-L-E-A-U, tout attaché. Et puis, vous tapez pareil Audrey Coulot sur YouTube, vous allez tomber sur ma chaîne. Ça devrait bien aller comme ça. Et toi, Matt, on te retrouve où?
Profduweb.com, vous allez retrouver tous les liens qui vont bien pour me contacter. Audrey, un petit suivi de ta chaîne, t'es rendu à combien de milliers d'abonnés?
Ben écoute, attends, faut que je vérifie tout de suite, je vais te dire.
Je pense que t'as fracassé les 15 000 dernièrement.
Alors, exactement 15 337 abonnés.
En direct, vous l'aurez
su. Oh là là, ça devient sérieux.
Ça devient vraiment sérieux. On vous souhaite un très bon mois d'octobre. Si vous allez fêter l'Halloween, faites l'Halloween avec de la distanciation, avec les mesures barrières. Je pense que c'est comme ça que vous les appelez en France. Vous ramassez des bonbons, mais vous vous approchez pas des gens. Et puis toi, Audrey, on se retrouve le mois prochain, peut-être encore avec une keynote.
Ben oui, apparemment, ça serait le 13 novembre, je crois, une keynote Mac. Donc là, ça va être super, super, super cool. J'ai hâte.
Alors là, il va y avoir une émission super cool de keynote, mais Audrey a aussi des idées pour une autre super émission qui risque de vous surprendre. Est-ce que tu veux dire le titre ou on se le garde pour une prochaine émission?
Je dirais juste que c'est un épisode interdit.
Interdit. OK, voilà. Excellent. More to come, comme on dit. On vous souhaite un très bon mois d'octobre. Salut, bye bye, ciao.
Salut, à bientôt.